7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. L'école à la radio. Après les tables de multiplication, les enfants vont apprendre à construire un jeu avec des objets de récupération. Bonjour Sarah Vauquier.
Bonjour à tout le monde.
Vous avez publié L'école à ciel ouvert aux éditions La Salamandre et vous êtes avec nous toute cette semaine. Alors peut-être un petit mot, Sarah, sur la façon dont vous avez vous-même construit la séance et les activités pour les enfants aujourd'hui.
Aujourd'hui, on va travailler les langues, les arts et aussi l'histoire. Donc vous allez inventer et décrire un jeu et enquêter sur les jeux de vos parents et de vos grands-parents. Et comme toujours cette semaine, on va faire une activité dans votre espace nature personnel aussi.
Ouais, pour retrouver sa vie intérieure. Et ensuite l'histoire du jour avec le magazine Planète J'aime lire chez Bayard Afrique. Aujourd'hui une histoire écrite par Dosilet Polo, un auteur de jeunesse ivoirien. Papa, j'ai fait une bêtise. En fin d'émission, le psychologue Ibrahima Girou à Dakar, il va décrypter les nombreux messages d'enfants que nous recevons à propos du Covid-19. L'inquiétude est encore bien présente chez les enfants, quelles que soient d'ailleurs les réalités dans leur pays. On leur donnera la parole donc aussi en fin d'émission. Et puis j'en profite aussi pour relancer mon appel à témoignage. À quoi ça sert tout ce qu'on apprend à l'école finalement? C'est une question fréquente des enfants. Alors dites-nous, les adultes, quel savoir scolaire vous utilisez dans votre métier? Il faut y réfléchir hein, parfois pour bien se remémorer ce qu'on a appris, ce qu'on utilise au quotidien. Et nous allons diffuser vos témoignages au fil des jours. Ils sont très important pour les enfants qui parfois se demandent à quoi ça sert. Je vous redonne le compte WhatsApp de l'émission 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
On est tout proches.
On est ensemble.
Ça reste entre nous.
7 milliards de voisins. Et la planète se parle.
Moi, c'est Monsieur Moussa, depuis le Cameroun. Ce que nous avons appris au CM2, le calcul des volumes, ça nous aide aujourd'hui dans le métier que je fais en tant que professionnel dans le métier bois, dans une entreprise du Cameroun. Le cubage des grumes, le cubage des bitées. Et parfois, je rentre même dans mon cahier de moins 2 pour essayer de revoir toutes ces formules. Et pour la petite histoire, je pourrais encore dire à ceux qui ont connu le calcul quotidien, qui est un livre de mathématiques dur. Jusqu'aujourd'hui, je consulte ce manuel, qui est un manuel utilisé en classe de CM2. Pour pouvoir retrouver certaines théories mathématiques afin de l'appliquer dans mon domaine professionnel. Merci.
Merci Moussa à Yaoundé, professionnel dans la filière bois, le calcul des grumes dans la production du bois. Les grumes, ce sont bien les troncs d'arbres hein, avec l'écorce. L'audience de l'école à la radio, vous l'entendez, très large. Et voici maintenant notre plus jeune auditrice. Elle habite Léogane en Haïti. Elle a 3 ans.
Salut à tous, je m'appelle Bessara Francesca Gildi Sériné. J'ai 3 ans, je suis en Haïti. J'aime beaucoup l'école à la radio, surtout les contes. Au revoir, bisous, mouah.
Bisous, bisous, Betsara. Petit bisou virtuel. Allez, Ndaï Kadi qui a posté aussi qu'il y a 12 ans, elle est en 5e à Dakar. Elle a beaucoup aimé les tables de multiplication avec les fourchettes. Super jeu, super compliment pour vous, Sarah. Et il y en a plein d'autres comme ça aussi pour vous, Sarah. Celui d'Étienne qui est à Gitega au Burundi. Vraiment étonnant d'apprendre tout en faisant de l'exercice physique. Merveilleux. Youssouf aussi à N'Djamena au Tchad. Hier, j'ai bien sauté. Ça faisait un bout de temps que je n'avais pas fait cela. Merci à vous. Ou encore Romaric qui est à Parakou au Bénin. Autrefois, en primaire, après la récréation, il fallait pour le cours de mathématiques réciter sa table de multiplication. Je précise que bien sûr qu'on continue de les apprendre par cœur, hein, même avec la maîtresse Sarah. Et ceux qui n'y arrivaient pas devaient la recopier plusieurs fois. Et oui, les temps changent, Romaric, et parfois cela a du bon. Les enfants ne vont pas seulement à l'école pour souffrir, mais évidemment pour apprendre. Et je pense que Sarah, vous êtes d'accord avec ça?
Eh bien, tout à fait. Et puis je rajoute, mais même pour les apprendre par cœur, continuer à sauter, ça, ça nous aide toujours.
Exactement. Ça, les fourchettes, donc ça a beaucoup plu. Et pour ceux qui n'ont pas eu la leçon, vous pouvez la retrouver sur le site rfi.fr à la page des 7 milliards de voisins. Cette émission est réalisée en direct chaque jour avec une équipe en confinement et en studio. Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Nicolas Bemnita et moi-même.
Milliards de voisins.
L'école à la radio.
Allez, on se met au travail avec vous, Sarah, et on en a l'eau à la bouche. On a de l'appétit pour apprendre. Nous allons réaliser, décrire un jeu. Mais avant cela, Sarah Vauquier, maintenant, il y a un petit rituel entre vous et les enfants. Les enfants sont invités à retrouver leur espace nature. Pour ceux qui découvrent cette rubrique, de quoi s'agit-il ?
Ça, c'est un petit espace nature personnel à vous, un endroit où vous vous sentez bien, à l'aise. Vous pouvez vous détendre. Ça peut dehors, mais ça peut aussi être, si vous ne pouvez pas sortir, juste un regard par la fenêtre dehors à un endroit que vous aimez regarder. Puis aujourd'hui, c'est une tâche artistique que je vous pose pour votre espace nature personnel. Donc, dessinez votre point de vue préféré dans votre espace nature. Mmh. Ça peut être un point de vue très large, par exemple le paysage à l'horizon, mais ça peut être aussi un point de vue très petit, par exemple en regardant par un trou dans une feuille ou une seule fleur qui pousse à travers le béton.
Oui, exactement. Ou ça peut être tout bêtement la crête du coq que l'on voit dans sa cour, pourquoi
exactement,
pas.
Exactement, tout aussi. À fait. Donc à vous de choisir votre point de vue préféré. Cette tâche, vous pouvez la réaliser après l'émission. Et celles et ceux d'entre vous qui savent écrire, formulez en quelques phrases pourquoi c'est votre point de vue préféré. Et puis comme toujours, envoyez-nous vos dessins et vos textes.
Et on est bien d'accord, Sarah, que les enfants retrouvent toujours à la même place leur espace nature.
C'est ça qui est important pour tisser un lien aussi avec votre nature préférée, hein, que vous voyez ou que vous pouvez toucher ou vous pouvez aller dehors.
Alors, maintenant que les enfants ont bien compris ce qu'ils allaient pouvoir faire après l'émission, dessiner leur point de vue préféré à partir de leur espace nature, aborde la question des jouets et des jeux. C'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs, les jouets et les jeux.
Non, on va parler surtout de jeux aujourd'hui. Ben moi, j'ai bien joué dans la nature quand j'étais petit, mais pendant mon enfance et surtout mon adolescence, j'ai adoré aussi des jeux à l'intérieur. J'ai adoré inventer des jeux de rôle dans des mondes fantastiques avec des dragons, des héros, des monstres, des labyrinthes et beaucoup de magie. Et puis, ben, j'ai passé mon temps de loisir à dessiner des plans et à écrire des scénarios de jeux de rôle. Et puis, j'ai utilisé un autre jeu, tout simplement les figurines et le plan de jeu pour jouer mes propres aventures. Et ma pauvre petite sœur, elle était forcée de tester toutes les aventures avec moi. Voilà.
De gré ou de force.
C'était mon jeu préféré pendant mes années d'enfance et d'adolescence. Et vous, Emmanuel, quel était votre jeu préféré ?
Oh bah vous savez, moi, je suis de la génération poupée Barbie, hein, donc très, très paillette, très girly, très fille. Voilà. Mais c'était aussi 1000 possibilités d'imagination pour les faire bouger, leur inventer des activités, des maisons, etc. Finalement, c'est vrai que même sans jouer, tous les enfants jouent naturellement.
C'est ça, en fait, jouer, ça, c'est quelque chose d'inné chez l'humain comme chez l'animal. Hein. On joue depuis la nuit des temps. Et puis, je me suis renseignée un peu sur l'histoire des jeux. Et on a vu dans les recherches archéologiques qu'il existait déjà des poupées en argile, des hochets, des sifflets en céramique du néolithique. Alors, donc, il y a 10 000 ans, on a déjà trouvé des jouets, des jeux, des enfants de ce temps-là. Et même dans la Rome antique, alors il y a 2000 ans environ, il existait des panoplies complètes pour poupées. Alors peut-être pas des Barbie pour vous, Emmanuel, mais un peu d'autres genres de poupées que les enfants utilisaient déjà pour jouer. Et chez nous, en fait, jusqu'à 1950, alors un peu quand vos grands-parents sont nés, les enfants, la plupart des enfants ici jouaient avec des jouets faits maison, en fait. Souvent fabriqués avec l'aide de leurs grands-parents, qui les a gardés aussi. Et ils étaient souvent dehors. La nature était place de jeu, mais aussi c'était elle qui fournissait les jouets. Par contre, pas tous les enfants n'avaient le temps ou l'énergie de jouer parce que beaucoup d'entre eux, ils devraient aider à la ferme des parents ou dans l'entreprise artisanale dont le parent travaillait dans les usines. Et certains enfants, ils ont fabriqué des jouets, mais pour les vendre, pour qu'ils puissent nourrir leur famille. C'est un peu l'historique que je trouvais sur les jeux et les jouets chez nous. Ce qui m'intéresse, c'est chez vous les enfants, est-ce que vous avez maintenant assez de temps pour jouer? Est-ce que votre terrain de jeu, c'est aussi le dehors, la nature? Et est-ce que vous fabriquez vous-même aussi des jouets avec ce que vous trouvez? Du matériel de récupération, des éléments naturels? Et comment c'était en fait chez vos parents et vos grands-parents?
Alors, ça serait intéressant de comparer comment vous jouez aujourd'hui, comment jouaient vos parents, et puis surtout, dites-nous à quoi vous jouez, envoyez vos photos. Alors, bien sûr, hors jeux vidéo, smartphone, etc., hein, bien sûr, je parle de jouer vraiment d'objets. Moi, je me souviens que les plus jolies voitures ou camions que j'ai vus, c'était fabriqué à Goma, à l'est de la RDC, par des enfants, à partir de canettes de boissons gazeuses. Et c'était très, très finement découpé pour faire des modèles de camions et de voitures qui roulaient très bien, d'ailleurs. Envoyez-nous des photos de jeux ou des jeux que vous avez fabriqués, bien sûr. Pas des jeux qui ont été achetés par vos parents au marché. Jeux que vous fabriquez, ça peut être des jeux en bois ou vous avez fabriqué avec un grand-parent, un oncle ou un papa ou une maman. Et puis, bien sûr, donc après l'émission, les enfants vont devoir poser des questions sur les jeux d'autrefois, c'est ça, Sarah ?
C'est ça, exactement. Ça, c'est votre tâche en histoire d'aujourd'hui. Demandez à vos grands-parents ou à vos parents la question suivante. Vous pouvez les noter maintenant sur votre feuille. Et pour les plus petits, c'est peut-être le papa ou la maman qui peut les noter pour ne pas les oublier. Donc, la première question, c'est, vous posez aux parents ou aux grands-parents cette question, avez-vous eu assez de temps pour jouer quand vous étiez enfant ?
Avez-vous eu assez de temps pour jouer ? Parce que c'est vrai que même encore aujourd'hui, il y a des corvées à la maison, le travail domestique prend du temps sur le temps de jeu des enfants. Alors, est-ce que les parents, les grands-parents ont eu assez de temps pour jouer quand ils étaient enfants ?
Deuxième question, c'était où jouez-vous ? L'endroit.
Voilà la question à poser aux parents, aux grands-parents. Dans quel endroit vous jouiez ? Troisième question.
Avec quoi jouez-vous ?
Avec quoi ? Alors, trois questions. Est-ce que vous avez eu assez de temps pour jouer ? Où aviez-vous l'habitude de jouer ? Dans quel endroit ? Et avec quoi jouiez-vous ?
Et puis, la quatrième. Quel était votre jeu préféré et comment ça marche ?
Alors, a priori, un jeu à plusieurs, là.
Oui, ça, c'est bien possible. Ouais. Ça, c'est bien possible. Et puis, peut-être cette quatrième question, quel était votre jeu préféré ? Ça va même vous donner envie de fabriquer ce jeu dont ont joué vos grands-parents dans les temps, ensemble avec eux ou tout seul. Ouais. Voilà.
Et vous allez vous apercevoir, les enfants, que tous les adultes, mais vraiment 100% des adultes, sont capables de raconter à quoi ils jouaient, si évidemment ils avaient suffisamment de temps pour jouer. C'est vraiment quelque chose qui est resté gravé dans la mémoire. Personne ne vous dira « non, je ne me souviens pas ». C'est pas possible, hein, Sarah ?
Mais non, parce que le jeu, c'est quelque chose de tellement important pour nous.
Alors, nous maintenant, avec les enfants, on va réfléchir à comment réaliser un jeu.
C'est ça. Donc, deuxième tâche, après l'émission, vous allez inventer et réaliser un jeu avec des éléments naturels ou de récupération que vous trouvez aux alentours. Et je vais juste vous donner quelques idées très simples. Qu'est-ce qu'on pourrait faire si vous n'avez pas des idées vous-même, Alors, tout simplement, un jeu de billes que vous inventez vous-même avec des règles à vous. Vous pouvez construire un attrape-balle. Vous pouvez aussi faire une piste mini-golf nature. Alors ça, c'est un des jeux préférés des adultes, des ados, des enfants chez nous. On fait du mini-golf, mais dans la forêt ou dans les prairies, et puis on invente les postes. Vous pouvez faire un jeu de cartes. Et puis un jeu traditionnel d'ici, ça s'appelle le lancer à l'épée. Pour ceci, il vous faut fabriquer deux épées et il vous faut construire un anneau avec du matériel que vous trouvez. Et le jeu, ça va ainsi, une personne lance l'anneau et l'autre essaye de l'attraper avec son épée.
Ah oui, ça c'est vraiment un jeu d'adresse, hein.
C'est un jeu d'adresse, c'est un jeu un peu sportif. Vous pouvez bien sûr inventer vos règles de jeu. Un autre exemple, organiser un concours de lancer sur une cible avec des sarbacanes.
Ah.
Donc la sarbacane, ça c'est un tube avec lequel on peut lancer des petits projectiles quand on souffle dedans.
Et ça, ces tubes, on peut se les procurer dans la nature. Si on a un espace humide pas très loin de là où on habite, on va peut-être trouver des bambous.
Exactement, ça marche très bien.
Creux.
Nous, on a le sureau qui est tout mou à l'intérieur. On peut le vider et puis on utilise même les baies ou des petits pois ou des petits cailloux pour projectiles. Puis dernière chose, on pourrait organiser une course de bateau ou de radeau avec des règles. Si vous avez un petit courant d'eau chez vous, ben voilà, ça c'est quelque chose que normalement tout le monde aime bien faire, construire des bateaux et des radeaux.
Ouais.
Je vous ai parlé beaucoup de règles parce que ça ne suffit pas de juste construire le jeu. Avant de le jouer, vous devrez bien réfléchir sur les règles. Alors, comment ça marche, votre jeu? Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui n'est pas permis? Est-ce que c'est un jeu où on peut gagner? Et puis, si oui, quand on a gagné? Et pour les plus âgés qui savent écrire, vous allez aussi écrire les règles de jeu sur une feuille. C'est un exercice d'écriture.
Oui.
Pour les plus jeunes, vous allez juste expliquer les règles aux gens qui vont jouer avec vous.
Oui, ça c'est parce que, pour bien nous rappeler qu'on est quand même, on fait du travail scolaire, que les enfants, en construisant un jeu et en décidant des règles, eh bien, vont s'habituer à écrire, à voir ce qui est logique, pas logique, et bien sûr, à pouvoir ensuite raconter ce jeu. Donc, on est bien dans le travail scolaire.
Bien sûr.
Un exemple avec une course de bateau.
Ouais, je vais vous faire un petit exemple avec des règles que moi j'ai édifiées comme ça. Alors, avec la course de bateau et de radeau, bon, première chose, chacun construit son bateau et son radeau uniquement avec le matériel qu'il trouve aux alentours. Et moi, je donne de la ficelle, mais rien d'autre. Hein. Deuxième chose, chaque bateau doit, avant que la course commence, montrer qu'il arrive à flotter dans l'eau. Le bateau doit être capable aussi de porter une pierre de référence que j'ai choisie.
Donc, ah oui, donc attendez,
avec un
pierre et il ne doit pas couler. Donc là,
il ne doit pas couler, les bateaux qui coulent, mais on ne commence même pas la course,
non.
Ils doivent déjà améliorer leur bateau. Hein.
Donc il faut peut-être trouver un morceau de bois flotté, ce qu'on appelle du bois flotté, qui est un bois très léger, qui a été usé par l'eau, pour ceux qui sont au bord de la mer, qui ont cette chance-là. On en trouve très facilement sur les plages et c'est idéal pour construire un bateau ou un radeau et dessus on peut mettre une petite pierre, un petit galet qui va être ce que vous appelez la pierre de référence. À quoi ça va servir cette pierre qui sera posée sur le bateau?
Cette pierre, alors déjà, je dis pierre de référence parce que chaque bateau doit faire le test avec le même poids. Hein.
Ah oui.
Comme ça, les conditions sont pareilles hein, pour tout le monde déjà au début. Et puis, les bateaux vont transporter cette pierre pendant la course aussi. Hein. Donc après, il faut que je désigne dans le ruisseau un lieu de départ et un lieu de la fin de la course. Par exemple, parfois je fais des petits fanions, je plante juste un bâton dans la terre avec un tissu. Et là, on voit ça, c'est départ. Et la fin, il a aussi un petit drapeau comme ça.
Ouais.
Voilà, après, tous les bateaux sont placés derrière la ligne de départ et sur mon signal, go! Ils partent tous en même temps. Ça, c'est important aussi.
Alors aujourd'hui, ce n'est pas les enfants qui courent, hein, ce sont les bateaux. Mais il va y avoir
aujourd'hui, c'est les bateaux.
Et il va y avoir de l'excitation
voilà,
quand même.
Qui
hein,
a gagné, hein, le gagnant, c'est le bateau qui a franchi en premier la ligne de la fin et qui porte toujours sa pierre. Hein. Si la pierre, elle est tombée, ben voilà, le bateau, il est hors de jeu. Hein.
Ça veut dire qu'il faut construire des bateaux très équilibrés, très stables. Là aussi, il faut réfléchir.
C'est ça, hein. c'est des techniques de construction qu'on apprend là. Et puis après, dernière chose, on fait la course 10 fois et puis on a le droit de réparer les bateaux après chaque tour s'il y a des choses qui se sont cassées. Et puis j'ai désigné en fait 2 gagnants. Alors on a le bateau le plus rapide, mais celui qui a terminé le plus de fois en première de ces 10 fois. Et le deuxième gagnant, c'est le bateau le plus stable, donc celui qui a tenu le plus longtemps sans réparation.
Ah oui, c'est subtil. Le bateau le plus rapide est celui qui a terminé le plus de parcours sans réparation.
Sans réparation, le plus stable, alors celui qui était vraiment très très bien construit.
Et pour aller plus loin, un petit calcul.
On pourrait encore définir la vitesse la plus rapide
hein, alors,
de nos radeaux et nos bateaux. Hein. On pourrait chronométrer le temps. Par exemple, combien de secondes utilise chaque bateau en moyenne pour faire un mètre de trajet ?
Oula, attendez,
là,
attendez.
Alors,
reposez la question, qu'on y réfléchisse bien.
Ouais. Combien de secondes utilise chaque bateau en moyenne pour faire un mètre de trajet ? Comment on pourrait calculer ça ? Ça demande une certaine préparation.
Oui.
Donc déjà, première chose, on doit savoir combien de mètres est la distance entre le début et la fin de notre parcours. Hein. On doit le mesurer et puis calculer en mètres. Hein. Après, on doit chronométrer chaque bateau et puis il faut noter les résultats dans un tableau.
Bateau 1, bateau 2, d'accord.
Oui, c'est ça. Bateau 2, il fait la course 10 fois et à chaque fois, on note le résultat en secondes, combien de temps il a fallu pour faire ce trajet. Puis à la fin, pour chaque bateau, alors le numéro 2 par exemple, on additionne toutes les secondes et on divise le résultat par les mètres parcourus. Alors par exemple, si votre trajet fait 10 mètres, le bateau a réussi 6 fois le trajet, mais on va diviser par 60. Parce que 6 fois 10 mètres, ça fait 60 oui. mètres. Et voilà, on fait des mathématiques tout en jouant.
Et donc, on peut avoir ensuite une moyenne. Hein, c'est ça, combien de secondes utilise chaque bateau en moyenne pour faire un mètre de trajet. Donc, on utilise le tableau, la division. Les enfants, si vous parvenez à bâtir une course de ce type ou autre chose, ça peut être des petites voitures, hein, si on n'a pas de ruisseau
à portée de main. Ça peut être des trajectoires de boules, tout simplement. Ou
exactement.
Un petit parcours où vous pouvez laisser rouler des objets qui roulent et vous pouvez faire exactement le même exercice.
Et on peut créer, il suffit d'ailleurs de créer un parcours avec une pente et de laisser dévaler les voitures. Ça peut être très amusant de comparer les temps avec des voitures qui sont toutes construites de façon un tout petit peu différente. On verra quelle est la plus rapide ou quelle est la plus stable. Envoyez-nous une photo de votre jeu, sa description aussi. Et puis, bien sûr, dites-nous comment vous avez procédé aussi pour la fabrication des voitures ou des bateaux. Sarah Vauquier, vous avez encore des précisions à nous donner.
C'est juste à rajouter qu'il ne faut pas oublier de retourner dans votre espace nature pour dessiner votre rue préférée aussi. Et j'aimerais terminer avec une citation de Michael Yorgman. Ça, c'est le président du comité de l'Académie des pédiatres d'Amérique. Par rapport au jeu, lui, il dit sur l'importance du jeu, « Les enfants développent les compétences clés du 21e siècle à travers le jeu, notamment les compétences sociales, émotionnel et exécutif, des fonctions cruciales pour les adultes dans la nouvelle économie qui les aide à collaborer et à innover. Donc, petit message aux adultes qui se questionnent sur l'importance de jouer.
Ouais. Et alors ça, c'est intéressant parce qu'on reçoit beaucoup de messages qui sont un peu surpris sur votre façon d'enseigner avec le jeu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'importance du jeu comme si c'était finalement plus crucial aujourd'hui à notre époque.
Alors,
c'est ce que vous pensez aussi,
moi,
Sarah ?
Je pourrais sous-signer ça.
Oui.
Vraiment, ce qui est important, c'est de collaborer, d'innover, d'être créatif, d'avoir un esprit critique aussi, hein, se questionner sur les choses, de pouvoir communiquer aussi avec les autres. Hein, ça, vous vous entraînez aussi. Mmh. Quand vous expliquez les règles, vous discutez, vous négociez si les règles étaient tenues ou non. Donc ça, c'est tous des compétences clés très importantes pour la vie dans ce siècle.
Ça fait un peu penser aux élections, hein, finalement.
La nature et l'environnement proche qui est très important.
Ouais. Oui, j'étais en train de dire, ça fait aussi penser aux élections. Hein, qui a gagné, qui a perdu. Finalement, ce n'est pas tellement différent de la course des bateaux, des petites voitures dans une pente. Hier, le coach Didier Akwété, à ce même micro à l'école à la radio, nous parlait de la nécessaire coopération entre les entreprises en temps de crise, même si parfois elles sont concurrentes hein, sur un marché. Il parlait d'une nouvelle notion, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette notion, Sarah, la coopétition. c'est-à-dire c'est la contraction de deux mots, le mot « coopération » et le mot « compétition » qu'on a l'habitude d'opposer. Et là, en les contractant, eh bien, ça donne la coopétition. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept ?
C'est complètement nouveau pour moi, mais c'est très intéressant. Il faut que j'y réfléchisse. Je ne peux pas vous dire là tout de suite.
Ouais, mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer finalement, hein, dans les activités que vous proposez aux enfants, où on leur demande à la fois pour les jeux, où il y a, c'est vrai, un gagnant, un perdant, mais tout fonctionne quand même sur un mode de compétition d'une certaine manière.
C'est ça. Alors, quand je parle de ma pratique, hein, nous, moi, je laisse souvent travailler mes participants en équipe pour réaliser une tâche. Et puis, clairement, il y a une certaine concurrence entre ces équipes aussi. Moi, j'aime pas le mot perdant. Hein. J'aime plutôt le mot coopérer ou gagner, en fait. Mais je vois aussi que beaucoup de gens, les adultes comme les enfants, ça nous fait envie aussi d'être en compétition, d'être un peu plus rapide, d'être un peu plus agile, de construire le bateau un peu plus stable. Et je crois ça, il faut aussi il faut aussi intégrer ça dans nos manières d'enseigner, qu'il y a en fait cette envie aussi de compétition qui est là.
Oui, alors vous voyez, on disait tout à l'heure, Sarah, que quand les enfants vont questionner leur famille, leurs grands-parents, leurs parents, leurs oncles, que sais-je, hein, dans le cercle familial, les générations d'au-dessus, tout adulte se souvient au moins d'un jeu ou d'une pratique de jeu ou de jouet. Dupont-Goma nous a posté le message suivant. « Je me rappelle beaucoup de choses à propos de jeux et jouets. » Il a posté ça sur notre WhatsApp. « Moi, je fabriquais des voitures en carton et ça me faisait du bien. » Cette phrase est intéressante. Hein. « Ça me faisait du bien. » Voilà. Quand on parle de jeux de société à propos de la collaboration, il existe maintenant des jeux de société où il n'y a pas de, à proprement parler, de gagnant et de perdant. Je sais que vous n'aimez pas ce mot, Sarah, mais il y a ce qu'on appelle des jeux collaboratifs où finalement, tout le monde tend vers un même but d'une certaine manière.
Oui, tout à fait. Et nous, en famille, parfois on change les règles du jeu aussi pour en fait atteindre finalement le plus de points possible qu'on peut faire avec ce jeu. Et là, d'une manière ou d'une autre, on essaye aussi de collaborer.
Oui, exactement. Et donc, les membres de la famille ne sont pas forcément opposés durant le jeu. Sarah, demain jeudi, qu'est-ce que vous nous concoctez dans votre marmite d'enseignante ?
Demain, on va partir sur la musique, mais en même temps, on va faire du sport, des langues et de l'histoire. Donc demain, vous allez questionner sur une chanson traditionnelle de chez vous et créer une chorégraphie de danse.
Ah, d'accord, on va aussi danser, donc avec la chorégraphie. Et la chanson traditionnelle, ça veut dire que les enfants peuvent déjà commencer à questionner leur entourage. Alors certains, je ne sais pas, mais certains parfois pratiquent des chants pour ceux qui vont à l'église. Est-ce que ça peut marcher ou pas? Ou est-ce que vous cherchez plutôt des chansons traditionnelles du village, des temps anciens?
Alors, plutôt des temps anciens, mais en fait, cette chanson, elle doit vous inspirer une chorégraphie de danse, surtout. Et je ne sais pas, je n'ai jamais essayé avec une chanson d'église de faire ça. C'est peut-être possible, je ne sais pas.
J'ai un autre message. Est-ce que c'est toujours le même, Jeff, à Goma? Vous savez, on me poste ça sur notre fil WhatsApp de l'équipe 7 milliards de voisins, l'école à la radio. Non, ce n'est pas le même auditeur. Moi, je me souviens, tout petit, donc il est aussi à Goma, on se fabriquait des voitures en carton. C'était si bien fait qu'on n'avait rien à envier des jouets industriels. Et j'avoue qu'avec le confinement, l'émission d'aujourd'hui me donne des idées de bricolage pour mes petits neveux. Voilà, encore des voitures en carton à Goma. C'est quand même amusant que deux auditeurs nous parlent de ces petites voitures en carton. Moi, celles que j'ai vues à Goma personnellement, c'était des voitures qui étaient réalisées dans des canettes de boissons gazeuses. Donc pour demain, les enfants, vous préparez bien déjà un choix de chansons traditionnelles, hein, une chanson que peut-être tout le monde connaît dans la communauté, dans le quartier, dans le village, dans la famille. Et puis vous essayez déjà un peu de vous renseigner sur ce qu'est cette chanson. Et évidemment, ce qui serait formidable, c'est si vous pouviez demander à une personne plus âgée que vous ou vous-même de chanter cette chanson et de nous l'envoyer en message WhatsApp. Ça serait génial. Évidemment, on diffuserait ça dans l'émission de demain. Je vous rappelle le compte WhatsApp de l'émission 33 1 84 22 71 71. Et avec Sarah Wauquiez, vous allez approfondir votre enquête sur cette chanson traditionnelle. On préparera évidemment du papier, des crayons et des gommes. Merci beaucoup Sarah Wauquiez. On vous souhaite une très très belle journée. Grand ciel bleu, je suis sûre, aujourd'hui chez vous en Franche-Comté.
Tout à fait. Eh bien, je suis curieuse d'entendre vos chansons demain.
Ouais, allez, dès maintenant les enfants, enfin dès la sortie de l'émission, allez, vous commencez à vous renseigner et à enregistrer des chansons. Voilà, merci beaucoup Sarah Wauquiez. Tout de suite, Joe Crooks, un autre type de musique. Et puis juste après, ça sera une histoire. Papa, j'ai fait une bêtise.
Baby. Meet me southeast on the downbeat with your khaki string vest intact. Though you're handsome, there's a red sun and I can't help wonder what's next. Then you ask me, what do you want from all our weekends and whiskey sour? Told you I don't vouch for love, G. It takes too much of my power. Oh, can't stay too long. I might stay in someone. Round and round I go. Got to set the tone in the hands of none. That's where I belong. Spending nights in lonely castles where I learned to sing my cry. Sweet is 16, thrown to test me. I could not sit still if I tried. Learning to run before I could walk out. Learning to cuss before I could talk it out. Nah, nah, nah. Oh, can't stay too long. I might stay in someone. Round and round I go. Got to set the tone. In the hands of none. That's where I.
Vous êtes bien sur RFI et l'école à la radio, 7 milliards de voisins, No Hands, Joy Crooks. Et tout de suite, une histoire racontée par Héloïse Oria, Papa, j'ai fait une bêtise, une histoire écrite par Dosilet Polo, un auteur de jeunesse ivoirien qui est publié aux éditions Bayard Afrique, la collection pour les jeunes Planète, j'aime lire.
Je vais inventer une histoire.
Il était une fois
Papa, j'ai fait une bêtise. Un roman écrit par Dosilet Polo. Aujourd'hui, comme tous les mercredis, Paul Aubré n'a pas école. Le garçonnet va pouvoir faire ce qu'il affectionne tant, passer la journée au travail de son papa, qui est journaliste. Là-bas, il griffonne sur des feuilles blanches. Ensuite, papa accroche ses dessins au mur avec des punaises. Paul Aubré brûle d'impatience. Il demande à son papa, qui l'a rejoint dans la salle de bain, « Papa ! Papa, on va faire quoi aujourd'hui ?»«
Nous devons terminer le journal. » Il doit partir chez l'imprimeur aujourd'hui. Tu devras donc être patient, répond son papa en nouant sa cravate.
D'accord, papa. Paul Aubré repart dans la chambre, prend une veste bleu marine et la donne à son papa, qui l'enfile aussitôt. Papa remarque alors que Paul Aubré n'a pas de chaussures. Va t'apprêter, sinon on sera en retard. Quelques minutes plus tard, la voiture vrombit. Puis, papa klaxonne. « Dépêche-toi, Paul Aubré !» Sur ses épaules frêles, Paul Aubré met son sac à dos, puis dévale les escaliers et saute dans la voiture.
Adossé à la banquette moelleuse, il halète et reprend son souffle. Papa démarre. Ce matin-là, le petit garçon remarque qu'il y a moins de voitures que d'ordinaire. Très vite, ils arrivent au « Journal des Kids », dont papa est le rédacteur en chef. C'est lui qui dirige toute l'équipe des journalistes. Une fois dans l'ascenseur, Paul Aubry se fige, cherche du regard papa qui lui fait signe d'appuyer sur le gros bouton rouge. Des couleurs, il y en a 5, soit une par étage. Direction le 3e étage. À la rédaction où les journalistes sont réunis, c'est la folie des jours de bouclage. Le magazine doit être envoyé aujourd'hui chez celui qui le fabrique, l'imprimeur. Main dans la main, Paul Aubry et papa empruntent le long couloir qui mène au bureau principal. Ils passent ainsi les troupes en revue. À chaque personne qu'il voit, l'enfant adresse un bonjour énergique avec un petit sourire en plus. Il y a d'abord Patricia, la graphiste, celle qui embellit les articles, Ibrahim, l'illustrateur qui dessine certains personnages, mais aussi le vieux Laurent, le secrétaire de rédaction qui corrige les fautes, Jérôme, le rédacteur en chef adjoint qui épaule papa dans son travail, et enfin Marie-Paul, l'assistante de papa qui l'aide à ne pas tout oublier. Tous saluent Paul Aubry qu'ils ont vu grandir. « Comment ça va, mon bébé ?» demande Marie-Paul en tirant sa joue. « Je suis plus un bébé, tantie !»« Paul !» fait papa en ouvrant la porte de son bureau. Paul Aubry entre dans la grande pièce lumineuse. Il s'assoit sur les fauteuils en cuir vieilli et se met à dessiner. Pendant ce temps, papa allume son ordinateur, puis feuillette la maquette du magazine prêt à être imprimée. Le bon à tirer, qu'on appelle aussi BAT. Il le repose ensuite sur son bureau. Marie-Paul leur apporte un plateau gourmand, café pour papa, Beauflotto et chocolat chaud pour Paul Aubry. « Merci, Tanti !» fait le garçon.
« Daniel, on a besoin de toi !»
crie Jérôme pour appeler le papa de Paul Aubry.
« J'arrive !» répond papa.
« Paul Aubry, tu ne touches à rien, surtout pas au BAT. Et fais attention, tes doigts sont huileux !» Les minutes filent. Paul Aubry entend son papa répéter régulièrement haut et fort
« Il faut l'envoyer chez l'imprimeur !»
en parlant du magazine. Pendant ce temps-là, le garçon dessine en mangeant. Son carnet est imbibé d'huile. Paul Aubry s'agace, se rapproche de l'ordinateur.
« Papa m'a dit de rien toucher, » murmure-t-il.
Il se précipite pour saisir le paquet de mouchoirs trop loin de lui. Splash ! Paul Aubry a renversé la tasse de café sur le BAT de papa. Catastrophe ! Toutes les corrections ont disparu.
« Je suis foutue ! Oh, papa va crier sur moi !»
Avec son t-shirt, il essuie le liquide noir qui coule. Des gouttes de sueur dégoulinent sur son front. Les battements de son cœur s'entendent au loin, jusqu'à l'ascenseur au rez-de-chaussée. Il prend alors le magazine trempé de café. Le secoue ? Rien. Puis il se met à souffler dessus comme s'il voulait éteindre un feu ? Rien. Quelques minutes plus tard, papa et Laurent rentrent dans le bureau. Paul Aubry cache le BAT dans son dos.
« Qu'est-ce qui s'est passé ici ?»«
Rien, papa, j'ai juste renversé ta tasse. »«
Tu t'es sali. Regarde ton t-shirt. »«
Oui, je vais aller aux toilettes pour l'essuyer. »«
Où est le BAT ? Où est-ce que je l'ai encore mis ?»
Le garçon s'éloigne des deux adultes à petits pas, sous le regard intrigué de Laurent, qui décide de le suivre. Une fois à la salle d'eau, Paul Aubry ferme la porte à clé, ouvre le robinet et passe le BAT sous l'eau. Les morceaux de papier se transforment alors en feuilles mortes, prêtes à tomber. Il passe ensuite les restes du BAT sous le sèche-main. Quelqu'un frappe alors à la porte.
« Mon grand, laisse-moi entrer. Je peux peut-être t'aider !»
dit Laurent. Paul Aubry hésite, puis ouvre la porte. Des larmes ruissellent sur ses joues.
« Je suis désolée, tonton. J'ai pas fait exprès !»
dit-il en montrant le BAT abîmé. Laurent lui tend un mouchoir et le console. Puis, il l'invite à le suivre dans son bureau. Une fois arrivé, Paul Aubry regarde autour de lui étonné.
« Mais il n'y a que des papiers ici ! Pas d'ordinateur ?»
Laurent répond avec fierté. Non, j'ai toujours aimé le papier. Je le préfère aux ordinateurs. Ici, on m'appelle le gardien, car je conserve toujours une copie des magazines et des BAT. Laurent sort un gros carton. Tous les numéros du journal des kids y sont. Le vieux monsieur tend alors à Paul Aubry une copie du BAT qu'il a abîmé.
« Oh, merci tonton !» dit-il en se jetant dans les bras de Laurent. « Je vais l'apporter à papa !»
Paul Aubry court et repart dans l'autre sens. Papa est au téléphone. Au bout du fil, c'est l'imprimeur. « On va avoir du retard. Impossible de trouver le BAT !»«
Papa ! Papa, regarde ce que tonton Laurent m'a donné !» dit-il en lui montrant la copie du BAT.
Son père, soulagé, raccroche et le serre dans ses bras. En voilà une journée que Paul Aubry n'oubliera pas de sitôt.
À la mise en onde, Romain Dubrac, avec la voix d'Héloïse Auria. L'histoire est écrite par Dosilect Polo, un auteur de jeunesse ivoirien qui est aussi le rédacteur en chef de Planète J'aime lire, édité chez Bayard Afrique. Et vous pouvez retrouver cette histoire écrite sur notre site, sur la page des 7 milliards de voisins, sur le site rfi.fr. Il y aura le lien direct pour accéder au texte de l'histoire. Et puis, je voulais aussi vous lire ce message posté par un auditeur, puisqu'on parlait de la façon de s'amuser des jeux autrefois. Jérôme dit, moi, je me souviens qu'enfant, on avait une pléthore de jeux. On fabriquait des voitures à l'aide de boîtes de lait. On jouait aussi aux soldats en fabriquant les armes avec de l'argile. Et vraiment, c'était très plaisant. Aujourd'hui, la technologie a pris le pas sur tous et les enfants ne montrent plus trop leur génie. Oh, quand même pas. Allez, tout de suite, la chronique d'Ibrahima Giroud.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Et nous retrouvons le psychologue Ibrahima Giroud à Dakar pour l'UNICEF. Bonjour Ibrahima Giroud.
Bonjour Emmanuel et bonjour à toutes les voisines et voisins.
Ibrahima Giroud, on a beaucoup parlé avec vous des parents et des familles. On va aujourd'hui écouter les enfants pour essayer de comprendre leurs appréhensions, mais aussi leurs espoirs pendant le confinement. Et surtout face au nouveau monde post-pandémique, nous allons tout de suite commencer par un message de Ndeye Maguette qui nous parle de Thiès au Sénégal.
Bonjour, je m'appelle Ndeye Maguette Ngaroussey. Je suis sénégalaise, élève en classe de 6e au collège Saint-Ursule de Thiès. Je dédie ce poème à tous les enfants qui vivent comme moi le confinement. Poème, le confinement. D'avoir l'impression de quitter sa patrie, d'avoir l'impression de quitter son abri, d'avoir l'impression de quitter ses amis, d'avoir l'impression de perdre sa seule raison de vivre. Mais ce n'était que la vie qui défile. Quand d'un geste j'ai brisé les barrières et que j'ai voulu sortir, j'ai été atteinte et à mon dernier soupir, j'ai aperçu dans le noir mon pays plus éclatant que jamais.
Qu'est-ce que vous retenez de ce poème de Ndeye Maguette, Ibrahima Giroud ?
Waouh ! Le message de Ndeye Maguette, Emmanuel, sonne vraiment comme un sentiment d'étouffé en raison du confinement, en raison du couvre-feu qui est imposé au Sénégal, comme vous savez, mais aussi, sans aucun doute, à cause des messages multiples et ininterrompus qui martèlent « restez chez vous » ou « Toglen Sinker » en Wolof. C'est très pesant pour les adultes déjà, mais ça l'est certainement davantage, je pense, pour les enfants qui, en plus des restrictions, absorbent aussi les débordements et le mal-être des adultes. On l'a déjà dit. Mais Emmanuel, on entend également de l'angoisse, l'angoisse de disparition, l'angoisse de mort et de tout perdre avec en prime le remords d'avoir négligé les gestes barrières. Ce qui fait que le plus tragique dans le message de Ndeye Maguette, c'est au final de devoir entrer au paradis avec le cœur plein de regrets, puisqu'en regardant en bas, elle se rend compte quand même que la vie valait la peine d'être vécue.
Alors, on va tout de suite écouter un autre message, celui de Johan, qui partage sa vision du monde après le Covid-19.
Bonjour les voisins, les voisines. Je m'appelle Johan, j'ai 13 ans. J'habite Antananarivo, la capitale de Madagascar. Je pense que le monde après le Covid sera différent car peut-être les gens qu'on avait connus ne seront plus là pour nous soutenir, nous réconforter dans la tristesse, nous loger dans les moments difficiles. Gros bisous à tous, bye!
Alors, c'est vrai que les enfants ont parfois une façon presque joyeuse de parler de choses assez, disons, de sujets qui les angoissent malgré tout.
En effet, Manuel, on ressent dans ce message de Johan beaucoup d'angoisse, de solitude, d'angoisse de manque, de la tristesse également, par anticipation. Mais une tristesse raisonnable tout de même face au risque de ne plus voir certains parmi ceux que l'on aime ou simplement ceux que l'on connaît. Vous connaissez cette belle image de Lamartine. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Mm. Donc imaginez maintenant quand vous entendez parler de milliers de morts par jour, cela me fait penser que nous avons trop exposé nos enfants à l'information. Surtout Emmanuel, les plus jeunes, au lieu de sélectionner ce qu'on leur donne comme information en fonction de leur âge. Une maman me disait d'ailleurs, avec qui j'ai parlé cette semaine, ma fille de 3 ans me dit qu'elle est fâchée contre le coronavirus. Mmh.
D'autant plus que les chiffres sont donnés à l'échelle mondiale et qu'ils ne reflètent pas la réalité dans leur propre pays. Mais cela aussi, c'est compliqué pour les enfants. Trop d'informations, surtout morbides, qui devient nuisible pour les plus jeunes. On écoute le message d'Alison qui est à Antananarivo à Madagascar.
Bonjour les voisins et les voisines, je m'appelle Alison, j'ai 9 ans. J'habite à Antananarivo, la capitale de Madagascar. Je pense que le monde après le Covid aura beaucoup moins de population, surtout pour les États-Unis, et que l'épidémie recommencera peut-être à plusieurs reprises à cause des malades soignés, d'après ce qu'on dit. Je pense aussi que beaucoup de personnes perdront leur emploi et d'autres auront plus de dettes. Et depuis le début du confinement, il y a moins de pollution sur Terre et que des personnes peuvent enfin passer des moments ensemble. Bonne journée, au revoir.
Alors évidemment, c'est compliqué pour les enfants de se rendre compte que malgré l'énormité des chiffres qui sont annoncés pour les décès, évidemment, ça ne va pas faire diminuer la population des États-Unis. Mais sinon, qu'est-ce que vous comprenez dans ce message qui se termine aussi sur une note optimiste pour l'environnement ?
Oui, Emmanuel, j'ai souri en entendant la fin du message. C'est vrai qu'on ressent d'abord dans ce message une vision angoissée du monde qui se dépeuple, un spectacle un peu chaotique de chômage, d'endettement et certainement de misère. Mais comme vous dites, Emmanuel, la fin du message d'Alison est comme un éclair qui déchire un peu la longue nuit et qui annonce l'aube d'une nouvelle période et à quoi elle doit ressembler. La pandémie est une opportunité pour les familles, nous l'avons nous-mêmes dit à plusieurs reprises, pour les couples, les amis. Une opportunité d'appuyer sur le bouton de redémarrage pour revenir à l'essentiel et pour l'humanité entière, de revenir aux valeurs essentielles et de replacer l'épanouissement de l'homme au centre des activités humaines. Le message d'Alison sonne comme un appel à un nouvel ordre familial beaucoup plus humanisé.
Oui, peut-être qu'il faudrait davantage écouter les enfants sur ce qu'ils ont à dire concernant cette pandémie. La question de la semaine à méditer dans quelques instants.
La question de la semaine pour les voisines et les voisins est la suivante. Comment construire un nouveau monde meilleur dans les familles sans comprendre comment les enfants le voient ?
Tout doit donc partir des enfants, si je vous ai bien compris. En tout cas, merci pour cette question à méditer. Ibrahima Giroud, on vous retrouve la semaine prochaine. Et quant à nous, les voisins et les voisines, on se retrouve demain pour l'école à la radio. Apprendre toujours plus et surtout garder les yeux grands ouverts.